Pays de lisières, de frontières, de brumes et de mémoires inquiètes, pays où les forêts semblent toujours cacher quelque chose, les monastères orthodoxes surgissent du brouillard comme des forteresses mystiques, les villages parlent encore à demi sec avec les morts, les chiens aboient dans les Carpates, les aristocrates deviennent vampires, les policiers secrets prennent des airs de moines noirs, les révolutionnaires eux-mêmes paraissent sortir d'une iconoclaste ou d'un roman gothique, on imagine des paysans silencieux, des prophètes illuminés, des contrebandiers balkaniques, des chauffeurs de taxi philosophes, des poètes insomniaques et des bureaucrates staliniens enfermé dans le palais de béton au milieu des champs de maïs. Et pourtant, ce pays de folklore halluciné, ce fatalisme orthodoxe et de tragédie rurale, fut aussi l'un des plus grands laboratoires spirituels, politiques, poétiques et littéraires du XXe siècle européen. Terre d'Émile Chiorin, de Mircea Eliade, d'Eugène Ionesco, de Paul Celan ou encore de Pagnaz Istrati. La Roumanie aura traversé toutes les secousses modernes, crise du parlementarisme, fascisme mystique, nationalisme révolutionnaire, stalinisme, culte du chef, industrialisation forcée, police politique, effondrement télévisuel du communisme sous les yeux sidérés du monde entier. Ce soir, sur Radio Courtoisie, Libre Journal de la Littérature, nous inaugurons une longue série consacrée à l'histoire, aux mythologies et à la littérature roumaine. Nous parlerons de Chiorin, d'Eliade, de Ionesco, de la question orthodoxe, des Balkans, du communisme, des paysans, des poètes, des fantômes politiques qui hantent encore cette région étrange, nation latine, perdue dans l'Est européen. Mais pour commencer, autant ouvrir directement le cabinet des monstres roumains avec un premier épisode qui sera consacré à l'histoire tragique du XXe siècle roumain, avec l'historien Traian Sandu. Traian Sandu, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes historien, professeur à Paris Sorbonne Nouvelle. Vous êtes également auteur d'une magnifique biographie de Ceausescu, le dictateur ambigu, aux éditions Perrin, paru en 2013. Vous êtes également spécialiste de la garde de fer et de Codreanu, pour lequel vous avez consacré votre thèse ainsi que plusieurs articles.
Ma thèse d'habilitation.
Je suis accompagné d'un large parterre ce soir, non seulement l'histoire, mais également la poésie. Marilna Lica Marcella, je vous en, corrigez-moi sans...
C'est parfait. Vous déjà, vous êtes en train d'apprendre correctement la langue roumaine.
Très imparfaitement. Nous avons fait, vous savez, 5 épisodes sur la littérature portugaise et nous avons pu nous frotter à ces langues minoritaires d'Europe, mais néanmoins latines. Je serai accompagné pendant toute la série de également Florine Propesco.
Bonsoir.
Que les auditeurs connaissent, je crois, sur d'autres antennes, d'autres émissions.
Oui, l'émission de cinéma avec Pascal Malheu et Arnaud Guillaume.
Et puis nous serons en musique avec Luciana.
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 Bonsoir, Luciana. Merci beaucoup de m'avoir.
En ligne avec Mario Varro. Mario Varro. Ah, bon, problème transmission. Pour commencer notre série et pour commencer notre évocation, il serait de bon ton d'évoquer le drame roumain du XXe siècle. Nous entrons en Roumanie. On connaît ce pays pour ses ancêtres moldaves, valaches, transylvaniens. Le nom de Roumanie apparaît finalement dans l'histoire de façon récente. C'est une jeune nation, dit-on. Elle aurait des ancêtres daces, des ancêtres latins, romains, slaves, grecs, des origines et des filiations multiples, variées, en grande partie mystérieuses. Traian Sandu, vous êtes l'auteur d'une histoire de la Roumanie qui fait référence. Une première question, qui ne sera pas forcément la plus simple, mais inaugurera notre longue série. Qu'est-ce que la Roumanie ?
Ah, écoutez... Merci. Oui, question difficile, évidemment. Je pourrais répondre de façon un peu négative. Je dirais que c'est un territoire, un état tampon entre plusieurs empires, hein, et dont elle subit en réalité les influences. Vous avez, c'est le pays moderne, la Roumanie moderne, contemporaine, en fait, c'est constitué entre la réunification de 1918, l'unification des trois principautés roumanophones en 1918, avec une Valachie, on va dire, qui comprend la capitale nationale Bucarest, qui a plutôt une influence byzantine et on va dire un peu ottomane si vous voulez, la Moldavie au nord-est avec une influence russe d'une certaine façon, et la Transylvanie à l'ouest avec une influence habsbourgeoise. Donc d'une certaine façon, c'est un espace roumanophone, donc qui a une spécificité, mais bien, on dirait vraiment extraordinaire, au sein d'une mer slave, donc une langue latine, qu'on a pu qualifier de miracle linguistique, miracle civilisationnel, mais peut-être, de façon peut-être un peu, je ne sais pas, peut-être ambigu, il a maintenu cette identité latinophone, précisément parce que elle était sous influence byzantine, et Byzance a été, bien que de langue grecque, est évidemment la dernière manifestation de l'Empire romain, mais c'est aussi le fait qu'elle a servi de tampon entre ces trois grands espaces impériaux qui ont évidemment des grandes civilisations spécifiques, mais on réduisait cet espace latinophone, eh bien on entrait au contact, les empires entraient dans un contact direct avec d'autres empires, donc des contacts guerriers, et d'une certaine façon, peut-être que la chance de cet espace, la chance géopolitique, géocivilisationnelle de cet espace romanophone, latinophone, ça a été précisément d'être parfois malheureusement théâtre de guerre, mais aussi état tampon entre empires. Et donc peut-être que cette définition un peu négative de son identité, c'est aussi ce qui lui a permis de préserver sa spécificité et de ne pas être totalement broyé par les trois grandes puissances, les trois grands espaces impériaux qui l'entouraient. Voilà.
Un témoignage du monde grec et du monde latin simultanément, en contact avec le monde slave, marche du monde ottoman, finalement. Exactement. Quelque chose d'extrêmement complexe, une superposition de cultures, d'héritages civilisationnels qui devait naturellement donner une langue et une littérature à laquelle nous allons nous interroger ce soir. Je m'adresserai également à notre poète, Marinella. Qu'est-ce que pour vous la Roumanie ?
La Roumanie, c'est... C'est d'abord le pays maternel. C'est un espace où je me suis formée. C'est un pays que j'aime énormément et où j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes à l'époque de Nicolae Ceaușescu.
Sur lequel nous reviendrons, on n'anticipait pas sur la suite de l'émission. Chère Florine, vous êtes également, je crois, de binationale, comme on dit.
Oui, je suis... Non, pas binationale, j'ai uniquement la nationalité française.
D'accord.
Voilà, donc oui, la Roumanie, pour moi, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans avec mes parents et j'ai très peu connu la Roumanie. Moi, moi, la Roumanie que je connais, elle est surtout fantasmée.
D'accord.
Voilà, donc j'ai gardé le souvenir d'un enfant de 9 ans qui est arrivé ici et je l'ai connu surtout à travers le restaurant de mes parents et la clientèle. On avait un restaurant de spécialité roumaine, Doina, qui n'existe plus aujourd'hui.
Malheureusement, voilà. Quand on se rappelle.
Voilà, voilà.
Et de grandes soirées.
C'est surtout ma grand-mère, c'est surtout une cheminée, c'est surtout une maison.
Avant d'évoquer le drame roumain, justement, le drame historique roumain avec Traian Sandu, faisons un petit détour poétique vers sa langue. Un détour qui sera court pour cette émission, mais sur lequel nous aurons le temps de revenir dans cette longue série qui va nous occuper plusieurs mois. Chère Marinella, vous avez traduit du français au roumain, du roumain au français, vous avez fait connaître la littérature roumain au français. Diriez-vous que la France connaît la littérature roumaine ? Diriez-vous qu'il est facile, aisé de traduire le français au roumain ou le roumain au français ?
À travers cette expérience d'écrivains et en même temps traductrice littéraire, je peux témoigner que ce n'est pas du tout facile. La traduction du français vers le roumain, moi je me suis spécialisée dans la traduction des poètes francophones contemporains vers le roumain et pour que je puisse trouver l'équivalent en roumain qui un mot qui a une résonance plus roumaine, il a fallu que je fasse des recherches linguistiques parce que nous avons des néologismes, bien sûr, d'origine. Il y a le fond ancien latin, comme le français, donc il y a cette racine commune pour beaucoup de mots, pour la langue roumaine et la langue française. Et plus tard, à partir du 19e siècle plus tôt, la langue roumaine a aspiré des néologismes de la langue française. Et ce n'était pas facile à trouver le mot juste. Pour ce fait, mes traductions et ma propre écriture s'approchent plutôt de la langue roumaine d'entre les deux guerres. Parce que c'était une époque et même 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, la langue roumaine était très belle, très belle. Et on retrouve actuellement des compatriotes qui sont restés au-delà des frontières de l'actuelle Roumanie. Par exemple, en Serbie, eux, ils ont gardé un fond linguistique très ancien. C'est une merveille. Les entendre parler roumain, c'est fabuleux, tout simplement.
Marie-Hélène, voilà. Donc, je propose à Luciana de nous chanter une chanson adaptée d'un poème de Mihai Eminescu, qui est le grand poète national roumain. Voilà, le père de tous les poètes roumains. Merci, Luciana.
Luciana.
Tu peux nous parler du poème?
La chanson, voilà. Donc le poème, il s'appelle Adio. Non, c'est bon. Eh bien, je compare mis beaucoup de poèmes de Mihai Eminescu ont été mis aussi en chanson, car Mihai Eminescu a réussi à utiliser toutes ses ressources littéraires antécédentes, tout ce qui existait avant, et en ajoutant tout ce qui était de contemporain. Et voilà, ça donne des très jolis vers. De-acum nu te-i mai vedea, rămâi, rămâi cu bine, mă voi feri în calea mea de tine, de tine, căci astăzi, dacă mai ascult nimicurile aceste, îmi par veche de demult poveste. Și tremură pe lacuri, totuși îmi pare că de atunci sunt veacuri, veacuri cu ochii serei cei din tâi. Eu luna nu voi mai primi-o, de aceea în urma mea rămâi. Adio.
C'est une chanson triste qui parle de la séparation d'un amoureux de son amante.
Qui est Mihai Eminescu pour les auditeurs?
C'est un poète romantique. C'est un poète romantique qui a modernisé la langue roumaine lyrique. Il a réussi à créer une nouvelle langue. Nous avons, dans le 19e siècle, dans la première moitié, nous avons une série d'écrivains formidables, tous instruits, au moins pour la plupart, à Paris. C'était déjà une nouvelle tendance, parce que jusqu'à cette période-là, la jeunesse étudiait plutôt à Istanbul, aussi plutôt pour la partie Valache, mm-hmm. pour la partie qu'on surnomme aussi le pays roumain. À partir du 19e siècle, cette première moitié, cette génération, va se diriger vers Paris. Ils l'ont étudié à Paris. Et ils sont retournés dans le pays avec un modernisme de l'écriture. Et Iaminescu représente la génération tout de suite après cette première génération francophone. Malgré que Iaminescu était plutôt de culture autrichienne, il a réussi une révolution, si je peux dire, linguistique, lyrique. Et les poèmes de Mihai Eminescu sont d'une douceur et d'un romantisme. Il parle beaucoup d'amour, mais en même temps, il y a des poèmes de protestes. Il défend la classe ouvrière qui commençait à exister déjà en Roumanie. Et un journaliste, il est venu avec une phrase et très critique contre les actions politiques des hommes politiques de son époque.
Vous nous régalez. Nous ferons une émission entière, je crois, sur la poésie roumaine et vous pourrez également évoquer vos propres recueils poétiques. Diriez-vous que la nation roumaine est spécifiquement poétique ? On se représente quelque chose de plus métaphysique, de plus tragique, parfois même de plus cosmique dans la littérature roumaine. Est-ce là un préjugé ou finalement, par rapport à ce que vous nous dites ?
Je pense que c'est une expression, l'expression lyrique d'un peuple. Le peuple roumain n'a pas le monopole sur cette expression. On trouve dans toutes les langues et dans l'historique de tout peuple des ballades, des gestes. Nous avons les doïnas. Les doïnas. Des chansons, des haïdouks. Donc, c'était un phénomène caractéristique au Balkan aussi, parce que la Roumanie n'a pas évolué, comme disait M. Sandu tout à l'heure, n'a pas évolué toute seule. C'est une île de latinité entourée à partir du 15e siècle des Slaves. On peut dire que c'est une île latine dans une mère slave, à l'exception des Hongrois. Mais toute son évolution, le peuple a aspiré, parce qu'il y a eu beaucoup de passages. C'était un pays au carrefour des nomades, de l'époque des grandes migrations. Il y a eu des nomades qui se sont installés, ils se sont intégrés. Et donc, c'est un mélange heureux, tout simplement.
Florine, vous n'êtes pas venue les mains vides. Vous aussi avez une évocation poétique.
Oui, on a un poème de Lucian Blagar. C'est un poète du 19e siècle, un poète symboliste, on peut dire, non ?
Et de l'entre-deux-guerres aussi.
Entre-deux-guerres.
Lucian Blagar était diplomate aussi. Avant que vous lanciez, que vous lanciez dans la lecture du poème de Blagar, il faudrait compléter ce qu'a dit ma voisine. Elle a tout à fait raison de dire que Eminescu, outre son travail qui a magnifié la langue roumaine et qui, d'une certaine façon, la plaçait dans, on va dire, au firmament de la littérature contemporaine. Il a aussi eu une œuvre politique très importante. C'est ce qu'on appelle le mouvement unimiste, c'est-à-dire des, comme elle l'a dit, des romantiques tardifs influencés par l'Allemagne qui réagissaient un tout petit peu justement vis-à-vis de ce libéralisme francophone rationaliste. Donc il y avait cette dimension lyrique et métaphysique qu'il allait chercher un petit peu, on va dire, dans le romantisme tardif germanique. Mais il y avait aussi une tendance anti-allemande, cette fois-ci, je dirais, anti-bismarckienne et hostile à la pénétration du capital du capital germanique après la défaite de la France en 1870, hein, puisque à ce moment-là, le roi et le prince qui était d'origine germanique, hein, qui était un Hohenzollern-Sigmaringen, a fini par, n'est-ce pas, faire accéder la Roumanie à la royauté, une royauté indépendante en 1878 au congrès de Berlin après la défaite de l'Empire ottoman. Mais dans ce contexte, Eminescu a eu un rôle très important avec ce mouvement, ce qu'on appelle le mouvement unimiste, c'est-à-dire des jeunes, qui est un mouvement qui venait plutôt de Moldavie, donc qui était un tout petit peu, on va dire, excentré par rapport à Bucarest, mais bon, il a travaillé aussi à Bucarest, mais surtout, il a critiqué la pénétration du capital allemand, notamment après la défaite de la France, en Roumanie, et par deux biais, hein, puisque ce capital arrivait par deux biais, il arrivait par le biais grec, quand il venait plutôt de Constantinople, et par le biais des banquiers juifs, quand il venait d'Allemagne. Et donc il a aussi, on va dire, une... Bon, sur le plan politique, il a une dimension xénophobe, mais en même temps, anticapitaliste. Et donc, aujourd'hui, vous avez des collègues, des sociologues, des historiens, quelqu'un de très connu qui travaille en Allemagne, qui s'appelle Manuel Abouatka, qui essaye d'utiliser Mihai Eminescu dans un sens postcolonial, hostile à la pénétration du capital occidental, tel qu'on le connaît aussi dans le cadre de l'Union européenne actuellement, mais en l'utilisant, elle a du mal d'une certaine façon à dire quels étaient ses fondements idéologiques, qui étaient des fondements xénophobes et antisémites dans le dernier tiers du 19e siècle. Donc c'est quelqu'un d'à la fois très intéressant pour l'idéologie postcoloniale aujourd'hui, et donc de sociologues comme Manuel Abouatka, mais qui est très difficile à manipuler parce que, précisément, l'arrivée du capital occidental se faisait par les banquiers juifs.
Un nationalisme minoritaire, mais néanmoins un nationalisme ténébreux, un nationalisme d'affirmation qui avait ses lumières et ses ombres.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, donc le poème s'appelle « La Terre ». Nous étions sur le dos, dans l'herbe, toi et moi, sous le feu du soleil, l'air fondé comme de la cire, et coulé sur les chaumes comme une rivière. Un silence accablant pesait sur la campagne. Une question est alors tombée au creux de moi. La terre n'avait-elle rien à me dire? Toute cette terre, dans son immensité cruelle et son mutisme meurtrier, rien. Pour mieux entendre, j'ai collé mon oreille contre la terre, incertaine, docile, et de sous la terre, j'ai entendu le battement sourd de ton cœur. C'est la terre qui répondait.
La terre, effectivement. Voilà. On est la terre. Dans la terre. La terre est le cœur.
La terre.
On voit la thématique de ces poètes qui n'est pas si loin finalement de la nôtre ce soir, puisque nous parlons finalement du drame roumain au XXe siècle avec Traian Sandu, le drame de la nation roumaine, une nation jeune, mais une nation qui s'affirme. Alors, vous êtes effectivement auteur d'une étude monumentale sur Codoleanu et la garde de fer, quelque chose qui n'est pas forcément très connu en France. La Roumanie a connu sa frénésie nationaliste. La Roumanie a connu également sa forme, on peut le dire, de fascisme. On peut s'en étonner. Effectivement, l'Allemagne de 1918, humiliée et aplatie par le diktat du traité de Versailles, allait faire le lit du national-socialisme et d'une réaction nationaliste. L'Italie, qui aurait aimé, on le sait, annexer la côte de l'Adriatique, était déçue par la victoire tronquée de 1918-19. Mussolini est arrivé sur cette déception et cette frustration. Mais la Roumanie, parmi les vainqueurs en 1918, n'a-t-elle pas étendu son territoire, n'est-elle pas devenue la grande Roumanie alors même qu'elle venait de naître? Pourquoi alors cette réaction politique? Quel est l'état exact de l'opinion roumaine après la Première Guerre mondiale? Y a-t-il, comme en Europe, cette brutalisation, ces types sortis des tranchées qui rêvent à nouveau d'en découdre, ce désenchantement progressiste? Racontez-nous un peu, Traian Sandu, la Roumanie de l'après-Première Guerre mondiale.
Oui, alors quels sont les ressorts finalement du succès de ce fascisme, bon, qui s'impose essentiellement dans le paysage politique roumain après la crise de 1929, même si le mouvement lui-même de la Légion de l'Archange Michel, dont vous voyez avec une tonalité une tonalité religieuse, un fascisme religieux, et la garde de fer, ses chemises vertes, avec une tonalité plutôt agrarienne, dont vous voyez un fascisme un tout petit peu, on va dire, traditionnaliste, à la fois religieux et agrarien, alors que le fascisme mussolinien est plutôt un fascisme urbain et industrialiste, pareil, encore plus évident pour l'Allemagne, qui va chercher dans la science et dans la biologie, n'est-ce pas, son racisme fondamentaliste. Eh bien, là, vous avez bien souligné la particularité et le caractère un peu étonnant de cette, finalement, de ce mouvement, car effectivement, la Roumanie fait partie des vainqueurs de la Première Guerre mondiale et l'agrandit largement son territoire et sa population, hein, on peut dire qu'elle la double au moins, en annexant la Transylvanie et la Bessarabie, l'actuelle République moldave. Mais, si vous voulez, le fait tout d'un coup de finalement de recevoir, d'annexer d'énormes territoires, ce n'est pas forcément toujours un cadeau. Ce n'est pas forcément toujours un cadeau parce que c'est aussi un défi. C'est aussi un défi. Et alors, le fait de devoir assimiler des populations, certes roumanophones, mais avec des influences très différentes, le fait aussi de devoir créer, fondre et se faire fusionner une nation à partir de ces influences très très disparates est un défi très très dur pour un État qui finalement est aussi dépendant, un petit peu comme aujourd'hui, hein, dépendant d'une grande puissance étrangère, certes amie, mais étrangère, qui est la France, qui domine après 1918 et le traité de Versailles, qui est dépendante aussi des capitaux, des échanges commerciaux avec ses espaces vainqueurs. Et donc, la Roumanie est à la fois hypertrophiée, hein, son territoire explose, sa population explose, mais elle n'est toujours pas, et cette jeune génération de l'après-guerre qui, comme vous le dites très bien, un peu comme les romantiques, après post-napoléoniens, eh bien n'ont pas vraiment connu la guerre, n'ont pas la légitimité liée aux tranchées, mais essayent de s'affirmer contre la génération immédiatement précédente, en disant, mais finalement, vous avez fait la Grande Roumanie de façon formelle, mais vous ne lui avez pas donné d'âme, car les Roumains sont très divers, finalement assez divisés, et nous allons venir avec un projet, finalement, un projet totalitaire, on peut discuter ce terme, mais en tout cas un projet radical, consistant à fusionner toutes ces influences finalement d'empire, puisque la Roumanie est née de l'éclatement des empires vaincus et de l'empire révolutionnaire tsariste, eh bien nous allons fusionner tous ces territoires et toutes ces populations diverses pour donner une âme et une identité forte. Et évidemment, pour ce faire, il faut un travail d'intégration, d'assimilation et de définition autoritaire et brutale, et de mobilisation politique quasiment révolutionnaire. Et finalement, cette génération des années 20 et surtout des années 30 va se définir contre, finalement, ceux qui avaient fait la Grande Roumanie et qui étaient allés dans les tranchées. Donc on assiste vraiment à une espèce de réplique d'un siècle après de la génération romantique post-napoléonienne qui avait souffert finalement de ne pas avoir souffert dans les tranchées et qui doit donner une âme à finalement un peuple très disparate. Donc c'est une sorte de projet, voyez-vous, à la fois révolutionnaire, radical, mais en même temps de définition identitaire extrêmement ambitieux, parce que cette Roumanie est à la fois très diverse et elle est surtout très dépendante, une fois encore, mais cette fois-ci non plus de l'Allemagne bismarckienne, comme c'était le cas à la fin du XIXe siècle, et ce contre quoi Eminescu s'est défini, mais cette fois-ci vis-à-vis de la France, et on retrouvait l'influence française hérité de Napoléon III, maintenant incarné par Clémenceau et ses successeurs, Poincaré, Aristide Briand, et dont la jeune génération roumaine, la génération des Cioran, des Mircea Eliade, on pourra discuter d'ailleurs de leur approche différente, je dirais même opposée, dans la fusion de ce projet fasciste roumain, identitaire radical roumain, hein, puisque là, on a deux influences, je dirais, radicalement opposées chez l'un et chez l'autre, mais les deux convergent vers ce point géométrique qu'est la gare de fer, qu'est une identité radicale, que l'on pourrait dire fasciste.
Il y a ce bouillon de culture un peu, désenchantement par rapport aux idées progressistes après la Première Guerre mondiale.
Exactement.
La science, la technique était vue comme porteuse de progrès et de lumière pour l'humanité, a finalement fait des engins de mort, des bombes dans les tranchées. On ne croit plus aux lumières comme croyait la génération précédente. Une jeune génération coincée entre la réaction à papa et l'impasse géopolitique de la Roumanie. Des affects et des rêves de grandeur qui paraissent finalement assez petits bourgeois, si on vous lit, Traian Sandu. Les prêtres et les instituteurs étaient les meilleurs vecteurs du légionarisme au village en raison des frustrations sociales et idéologiques qui leur étaient propres au vu de l'évolution de la situation urbaine et de leur statut déprimé. Quelque chose de petit intelloraté, de petit bourgeois qui rêve d'héroïsme, qui s'imagine revivre la grande épopée de la guerre. Et cette myriade de mouvements rivaux, nationalistes, de réactions, dans laquelle émerge une figure, une personnalité, Codré Anou. Alors, qui est réellement Codré Anou ?
Oui, vous avez raison de dire que en fait, la rêverie petite bourgeoise de ces fascistes, en fait, s'oppose à la rêverie des grands bourgeois du Parti National Libéral.
Une réaction très traditionnelle. Voilà.
Sont traditionnelles, qui sont francophiles, occidentalophiles. Et donc la jeune génération se retrouve plutôt dans la geste, je dirais, de Codré Anou, qui est, on peut dire, parce que lui-même se définit comme tel, une sorte d'avocat raté qui ne finit pas sa thèse. Hein, d'ailleurs, la thèse, il l'a fait en France à Grenoble. C'était quelqu'un de... c'est-à-dire, c'est une médiocrité des années 20 qui aujourd'hui pourrait peut-être paraître brillante. Je ne veux pas être trop conservateur et trop passéiste. Mais en tout cas, bon, il ne finit pas sa thèse de doctorat à Grenoble. Il rentre pour faire de la politique. D'ailleurs, c'est un geste assez significatif. Il interrompt son travail doctoral et il rentre en Roumanie parce que le mouvement nationaliste qui est représenté par la figure tutélaire de l'antisémite Assez Cuza, mais à ne pas confondre avec le premier prince qui a fait la petite Roumanie, la première union roumaine en 1859 sous l'égide de Napoléon III. Là, il s'agit d'un autre Cuza qui est professeur à l'université de Iași et qui fonde son nationalisme sur un antisémitisme, je dirais, hypertrophié. Hein. Tout est de la faute des Juifs. Or, justement, les jeunes fascistes, qui sont aussi bien évidemment antisémites, mais qui vont se détacher de lui en 1926-27 avec le retour de Codré Anou en Roumanie, rentre de Grenoble et l'arrêt sa thèse, ils ne vont pas insister au début sur l'antisémitisme, ils vont au contraire insister en fait sur la modernisation, sur l'urbanisation. Certes, leur idéologie paraîtra au début religieuse, agrarienne, ils adoptent les chemises vertes, symbole agrarien. Il s'intitule « Légion de l'archange Michel », donc référence traditionnaliste religieuse, mais en réalité, lorsqu'on voit leur action, eh bien c'est une action moderniste. En fait, ils recrutent essentiellement dans les villes, parmi cette jeunesse, qui est une jeunesse d'intellectuels, si vous voulez, d'intellectuels au chômage, oui. Qui vont être bientôt frappés par la crise de 1929. Et en fait, c'est une génération qui veut écarter La vieille génération, c'est une
et qui agit aussi dans une grande violence, puisque
oui, bien sûr.
Parlez de grève étudiante, vous parlez de révolte, bon, il y a un terreau de violence.
Et puis d'assassinat.
Et d'assassinat.
Assassinat politique.
Et là, par exemple, Quadriano tue un préfet qui était en train de bastonner ses propres partisans.
Pas trop, oui.
Et il parvient à se faire acquitter.
Oui, c'est ça. C'est assez étonnant, mais c'est significatif, en fait, de l'impact qu'a cette aile jeune, violente, de l'impact politique à l'échelle roumaine. Il faut savoir que lorsqu'il assassine ce préfet en 1924, il ne s'est pas encore détaché de son mentor Cuza. Hein, c'est-à-dire que la première violence pré-fasciste, donc qui précède la création du parti en juin 1926, hein, de la Légion de l'Archange Michel, cette première violence se fait dans un cadre relativement sécurisé par la figure tutélaire de Cuza et de la radicalisation post-1918, post-première guerre mondiale, de la droite roumaine. Ces gens-là étaient déjà antisémites, hein, avant 1914, ils avaient déjà cette tendance-là. Comme d'ailleurs en Allemagne, vous avez des associations radicales qui n'ont pas encore pris le pouvoir, mais qui ont une aura intellectuelle. Et évidemment, la Première Guerre mondiale va leur donner un impact beaucoup plus fort. Mais cette première violence, donc avant 1926, se fait dans un cadre encore sécurisé par ces figures tutélaires de la droite radicale antisémite, avant de se détacher eux-mêmes, donc en 1926, de cette droite-là, pour en fait créer un mouvement anti-système en rupture avec le royaume lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, ils voudraient pratiquement garder le royaume, le régime de royaume constitutionnel, mais en réalité, remplacer le roi par un chef qui est un fureur, qu'ils vont appeler le capitaine, mais qui est en fait un mouvement révolutionnaire, jeune, mobilisateur, et c'est ça, hein, je crois que le maître mot, c'est la révolution anti-système.
Bon. Alors, nos invités peuvent intervenir à tout moment, Marinella.
Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse analyser le mouvement de Quadriano et son évolution dans le contexte très important et impossible à ignorer de la révolution de Lénine en Russie. Donc, déjà là-bas, il y avait, on le sait très bien, que Lénine a imposé sa théorie qui s'appelle bolchevisme, sa vision sur le communisme, bolchevisme. Donc, il gagne la bataille. On n'insiste pas sur ce qui s'est passé en Russie, mais la révolution de Lénine a fait briser l'empire tsariste et créer une union soviétique bolchevique. Concept que Staline, un peu plus tard, va le changer en communisme. Mais en Roumanie, on l'assimile bien au stalinisme. Cette influence qui se passe à la fin de la Première Guerre mondiale ne pouvait pas convenir en Roumanie. Parce que déjà, les soldats roumains et les soldats russes ont communiqué sur le front. Après, il y a eu cette union de toutes les provinces historiques roumaines, très importantes. Pour la première fois depuis l'Antiquité d'As, le territoire de l'ancien empire d'As était quasi reconstitué. Et alors, beaucoup de fonctionnaires, des intellectuels sont partis en Bessarabie, l'actuelle Moldavie, pour enseigner, par exemple, des instituteurs ou des gens qui sont partis pour un gendarme. Donc, il y a eu un déplacement de la Roumanie ancienne dans la nouvelle province roumaine. Et donc, ils ont pu comprendre qu'est-ce que se passe en Russie, où il y avait des massacres, il y avait la terreur, il y avait la guerre civile. Et donc, toutes ces théories, surtout, sont devenues plus évidentes en Roumanie. Monsieur Staline, par exemple, a commencé à infiltrer la Roumanie avec des agents. Et essayer de briser le royaume de la Grande Roumanie. C'était un mouvement à l'intérieur de Roumanie contre la Roumanie. Et il y avait le Parti communiste, déjà fondé en Roumanie, qui, ces communistes n'étaient pas nombreux, mais ils avaient aussi une attitude contre ces frontières nouvelles de Roumanie. Et c'est le contexte où M. Codreanu a pu évoluer et imposer sa logique.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ma voisine. Codreanu, dès 1919, donc il avait 20 ans, hein, puisqu'il est né en 1899, effectivement, Codreanu s'affirme contre l'influence des communistes dans l'université de Iași, c'est vrai, mais ce qu'il faut bien remarquer, et là je ne diverge pas, mais j'attire quand même l'attention sur le fait que lorsque Codreanu est l'aile jeune de la Ligue antisémite de Cuza, se permet de rompre avec cette Ligue antisémite traditionnelle, qui est pour le roi et pour une certaine stabilité, pour une certaine stabilité politique. Lorsqu'il se permet de rompre avec elle en 1926 et de créer un mouvement qui est révolutionnaire, qui est fasciste, eh bien, ils le font après le danger bolchevique. Quand le danger bolchevique est passé, puisque la tendance à une révolution mondiale s'arrête à peu près avec la mort de Lénine en janvier 24. Et donc, à partir de 1924 et de l'échec, du dernier échec des derniers feux de la révolution bolchevique en Europe et dans le monde entier, et ces derniers feux, c'est l'Allemagne en crise après l'occupation de la Ruhr en 1923, et la tentative qu'on appelle la tentative en Moldavie dans le village de Tatarbunar, qui est une tentative de prise de pouvoir bolchevique en 1924, fin 1924 en Roumanie, et bien après cette année 1924, on peut dire que la révolution bolchevique se stabilise et n'a plus de tendance mondiale immédiate, et donc le fascisme roumain se détache et se définit par rapport aux conservateurs antisémites à partir de 1926-1927, donc à partir du moment où cette révolution bolchevique est stabilisée, où le danger est moindre.
Mais les agents n'empêchaient pas.
Mais je suis tout à fait d'accord. Les agents communistes existaient.
Elle n'a pas été arrêtée parce qu'elle était juive, mais elle a été arrêtée parce qu'elle faisait une propagande.
Bien entendu, il y avait une pénétration. Il y avait encore une. Évidemment, l'international fonctionnait, mais Staline, lorsqu'il a véritablement pris le pouvoir et lorsqu'il a éliminé ses concurrents, donc autour de l'année 1929, eh bien, il définit sa théorie comme le communisme dans un seul pays. Donc il y a une mise entre parenthèses, une pause dans la révolution mondiale, même si en réalité, comme vous le dites très bien, l'international continue à fonctionner. D'ailleurs, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, puis ensuite la guerre en Espagne, elle va être relancée, évidemment, et son travail va être relancé. D'ailleurs, la Roumanie des années 30, du roi Carol, surveille aussi bien les fascistes que les communistes. Les deux connaissent des procès et les communistes sont emprisonnés, sont surveillés par ce qu'on appelle la sigurante, c'est-à-dire la sûreté, la police politique. Et donc, il y a des procès aussi bien contre les communistes, et on n'a pas encore atterri en prison au milieu des années 30, comme d'ailleurs les fascistes eux-mêmes après des assassinats en 1933-34, et à partir de 1937, il y a une répression. Donc, effectivement, malgré tout, hein, ce parti fasciste se définit au début contre le communisme, mais après surtout de façon autonome et pas de façon simplement anti-communiste. Il y a une espèce de concurrence pour gagner le cœur des ouvriers et des masses populaires. Et effectivement, d'ailleurs, d'une certaine façon, comme le Parti communiste est interdit en 1924, ce sont les fascistes qui récupèrent la classe ouvrière.
Et nous avons eu aussi des partis juifs extrémistes.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Alors, ce débat était vif, passionné. Peut-être un peu de musique pour
un peu mettre en valeur notre langue. Alors, c'est un poème qui est écrit par Alexei Matevitch, un poète roumain parmi les meilleurs de Basse-Arabie. Et c'est la plus belle poésie, considérée comme la plus belle poésie dédiée à la langue roumaine. Voilà, on va faire un extrait. Limba noastră e o comoară, în adâncuri, în adâncuri înfundată. Un șirac de piatră rară, pe moșie, pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde, înturundeamă ce fără veste. S-a trezit din somn de moarte, ca viteazul din poveste. Limba noastră e aleasă să ridice, să ridice slava în ceruri, să ne spuie în hram și acasă veșnicele, veșnicele adevăruri. Limba noastră e graiul pâinii, când de vânt se mișcă vara, în rostirea ei bătrânii, cu sudori sfințit-au țara. Nu veți plânge atunci amarnic, că vi limba părea săracă, și-ți vedea cât-i de darnic graiul țării noastre dragă.
Marinella.
Le premier baiser, c'était l'été, c'était la prairie, c'était notre jeunesse et les mille lunes, étoiles du minuit. Il faisait si beau, beau féerique, beau romantique, beau de contes de fées. Soudain, dans la paix de cette nuit d'été étoilé, ses lèvres m'ont fait goûter le tout premier baiser. Et je ne sais toujours pas si des lèvres d'homme ont embrassé alors ma bouche ou le désir de l'étoile du berger. 50 ans après, les fiançailles de nos lèvres font encore rêver mes lèvres.
Merci Marinella. Merci. L'auteur.
Moi.
Vous-même.
Bien sûr.
Nous avons l'occasion de réécouter à nouveau. Alors, vous aviez effectivement un débat un peu vif, mais ma foi intéressant, sur l'origine de la garde de fer, ce fascisme roumain qui était absolument brutal, absolument antisémite, très autoritaire, etc. Mais dont vous rappelez que parfois les fascismes en Europe s'étaient inscrits aussi dans une dynamique de mimétisme, effectivement, par rapport au stalinisme. Les historiens discutent beaucoup de savoir si c'est une réaction au stalinisme, mais c'est vrai qu'il y a une concomitance quand même. Cordeléanu vient d'une espèce d'organicisme national-catholique. Vous dites qu'il est fasciné par l'Action française et que le modèle dans les années 20 de la garde de fer en Roumanie, de ses confréries étudiantes. Ce n'est pas tant l'Italie fasciste ou la main hitlérienne que l'Action française. C'est plutôt un royaume pensé de manière plus positiviste, plus rationnelle, comme a pu le faire Charles Maurras en France. Et puis il y a le stalinisme, les années 30, il y a la collectivisation des terres, et là tout le monde devient fou. Les gens se durcissent, les gens pètent complètement un câble. Et donc on a l'ascension d'Hitler en Allemagne, on a effectivement cette radicalisation de la garde de fer, contre Giuliano qui tient des discours qui sont... On n'a pas idée de la violence et de la vitupérance des discours, vous les citez dans votre thèse. Oui. Mais justement, cette garde de fer, effectivement, s'inscrit quand même dans une géopolitique, finalement.
Oui, d'abord, avant de revenir à ma thématique de la spécificité et du caractère autonome, et je reviendrai sur les influences étrangères, italiennes, françaises, allemandes, dans la création de la guerre de fer, je voudrais apporter un peu d'eau au moulin de ma voisine et de confirmer en rappelant... J'ai participé à la soutenance d'une excellente thèse d'une doctorante moldave, Ekaterina Ojoga, sur le Parti communiste roumain entre les deux guerres, et c'est effectivement sur l'importance de l'international et de l'influence de l'international, de la troisième internationale, du Comintern en Roumanie. Il y avait l'impact notamment dans les minorités roumaines, mais pas seulement dans les minorités roumaines, et aussi l'importance de ces minorités roumaines dans la guerre d'Espagne. Hein, beaucoup de minoritaires, mais aussi des gens d'origine roumaine, mais il y avait aussi beaucoup de minoritaires juifs, notamment, mais pas seulement, aussi d'origine hongroise et autres, qui ont fait leurs armes en Espagne, avant de revenir, se réfugier, lorsqu'ils n'avaient pas été assassinés par les staliniens, venir se réfugier pendant la Deuxième Guerre mondiale en Union soviétique, et ensuite, revenant sur les chars soviétiques en 1944 pour bolcheviser la Roumanie. Donc ça, on est tout à fait d'accord, et l'excellente thèse d'Ekaterina Ojoga confirme ce que vous dites. Alors, donc j'apporte un peu d'eau à votre moulin, bien volontiers, et là je reviens maintenant à votre question sur les influences et cette concomitance des mouvements fascistes européens. Bon. Alors, là encore, je ne vais pas rentrer dans des débats avec d'excellents collègues, comme par exemple Yorin Chapoutot et d'autres, pour qui ces mouvements d'extrême droite, radicaux, violents, très violents, sont idiosyncrasiques, c'est-à-dire que chacun dans son pays, avec sa spécificité, et de ce point de vue-là, il s'inscrit en faux, à la fois vis-à-vis de la notion de totalitarisme, qui regroupe fascisme et communisme, en tant que notion qui ne serait pas scientifiquement fondée, mais aussi contre la notion de fascisme générique que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la concomitance de ces mouvements de droite radicaux. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans un débat avec lui, ça serait intéressant s'il était près de nous, et on pourrait en débattre, mais il reconnaît lui-même que s'occupant d'un grand fascisme, ou plutôt du nazisme, qui est un grand mouvement radical de droite, fondamentaliste, révolutionnaire, etc., qu'il n'assimile pas au fascisme. Et donc, il reconnaît lui-même que s'occupant d'un mouvement qui est aussi important que le nazisme allemand, effectivement, il a tendance à ignorer, car ce mouvement, évidemment, est ce régime peut exister par lui-même et n'a pas besoin de faire référence à, peut-être évidemment, au fascisme mussolinien, mais certainement pas au petit fascisme des autres pays. Tandis que, évidemment, les fascismes secondaires des petites puissances, comme par exemple le légionnarisme roumain, l'oustachisme croate ou les croix fléchées hongroises, ont besoin de faire référence à des grands modèles, l'Italie ou l'Allemagne, l'Italie et l'Allemagne, et éventuellement l'action française. Et je vais y revenir tout de suite et je vais répondre à votre question. Mais tout ça pour dire que lorsque des historiens de la taille, effectivement, de ce que je viens de citer, s'inscrivent en faux contre la notion de totalitarisme et surtout de fascisme générique, eh bien, c'est aussi peut-être, et ils le reconnaissent eux-mêmes, parce qu'ils s'occupent de grand fascisme. Et moi, je m'occupe non pas, et j'aime à le dire, non pas d'un petit fascisme, mais comme je le dis, d'un grand fascisme dans un petit pays, dans une petite puissance. Et si vous voulez, le nazisme allemand, le fascisme italien, sont aussi reconnus et ont une vie, je dirais, autonome parce qu'ils ont fini par s'imposer dans de grandes puissances. Tandis que les autres mouvements radicaux, appelez-les fascistes si vous voulez, ou appelez-les par leurs noms nationaux si vous ne croyez pas au fascisme générique et à la création d'un mouvement fasciste générique européen et peut-être même mondial, transnational en tout cas, eh bien, ces mouvements forcément doivent se référer à un grand modèle. Même si en réalité, et c'est ce que j'essaie de montrer pour le légionarisme, eh bien, ils ont leur propre ressort de radicalité qui finalement est issu de la Première Guerre mondiale et de la radicalisation révolutionnaire et de volonté de rupture avec la génération des pères qui a fait la guerre, mais qui, d'une certaine façon, est aussi coupable d'avoir ensanglanté l'Europe. Même si, d'ailleurs, la génération fasciste va l'ensanglanter encore plus et de façon encore plus profonde et mobilisant encore plus les sociétés civiles. Donc, je réponds maintenant à votre question sur les influences de l'action française, du fascisme italien, du nazisme allemand. Je leur ai consacré deux ou trois articles. Eh bien, vous avez à l'intérieur de la Garde de Fer une aile qui est liée à l'action française autour de la personnalité de Yon Motta. Yon Motta, c'est en fait le beau-frère de Codrano. Codrano finira par épouser la sœur de Yon Motta. Et Yon Motta a été dans l'entourage de Maurras au tout début des années 20 et il a fait pénétrer en Roumanie, il a traduit en roumain le protocole des sages de Sion, hein, ce texte antisémite. Et donc vous avez là une tendance que je dirais francophile liée à l'action française, Yon Motta. Mais Codreanu, qu'est-ce qu'il fait? En 1923, il fait un voyage d'études parce que lui, il est germanophone. Son père est aussi un activiste nationaliste roumain et professeur d'allemand. Sa mère est d'origine allemande et il vient de Bukovine et donc sous influence autrichienne. Et donc en 1923, il va faire un voyage soi-disant d'études, en réalité d'études politiques plutôt que d'études. Il fait un voyage dans l'Allemagne révolutionnaire d'extrême gauche, d'extrême droite, de la crise de Weimar, de la crise de l'occupation de la Ruhr, la grande inflation, vous savez, la période de profonde crise liée à l'occupation de la Ruhr, grave crise sociopolitique en Allemagne. Et il revient avec à l'esprit l'influence, avec deux choses, l'influence des associations d'extrême droite allemande, y compris Hitler, mais bon, ça, je ne pense pas qu'il était en contact, je ne sais pas s'il a été véritablement en Bavière au moment du putsch d'Hitler, mais en tout cas, il rentre avec toute cette effervescence extrémiste de gauche et de droite, populiste en tout cas, et aussi avec une autre idée, qui est celle que si on veut connaître un succès politique, eh bien, il faut organiser. Donc, plus qu'une influence intellectuelle de type Maurras sur Ion Mota, vous avez Codreanu qui rentre d'Allemagne avec des petits svastikas. Voyez, des petits svastikas. Et il commence à organiser, l'aile jeune de, du vieux parti antisémite de Cusa, de l'association de ce qu'on appelle la Ligue de Défense Nationale de Cusa, et il commence à cette aile jeune à leur mettre des enseignes, des insignes comme ça, des enseignes qu'on accroche, vous savez, au revers du veston, hein, oui, avec des petits svastikas. Donc il est tout simplement en train de, d'organiser, de mettre la main sur cette aile jeune, de l'organiser sous son obédience à lui, et il est en train tout doucement de la détacher du vieux professeur universitaire, de l'équivalent, si vous voulez, du Maurras roumain, du Cusa, qui est à peu près le Maurras roumain, mutatis mutandis. Bon, on peut discuter, mais peu importe, on va faire vite. Donc, il est en train de détacher l'aile jeune du vieux professeur antisémite à barbichette, qui est un homme du 19e siècle, et il est en train d'en faire une organisation radicale, révolutionnaire, structurée, paramilitaire, et là, on bascule dans le fascisme avant même la création en juin 27, 1927, si j'ai dit 1926. Je crois que je me suis trompé. Écoutez, je ne me souviens plus si c'est 26 ou 27. On va vérifier, je crois que c'est 27. Et donc, il y a cette volonté d'organisation paramilitaire.
Il faut avancer dans l'émission. On a compris que ce fascisme roumain était difficile à définir en termes de philosophie politique. On a à la fois l'anticommunisme, on a à la fois le nationalisme d'une nation jeune, on a à la fois l'intégralisme, on a à la fois l'iconophilie orthodoxe, et on a ce mimétisme, cette fascination pour une espèce d'éros fasciste, pour une exaltation de la violence qui finit par l'emporter. La garde de fer, alors, Codreanu est fasciné par l'organisation qui peut être celle, effectivement, des fascistes allemands, des fascistes italiens.
Mouvement paramilitaire.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que la garde de fer? Une partie? Un parti? Une ligue? Une confrérie? Un ordre mystique? Un mouvement de masse? Un fascisme paysan? En termes de parti politique et d'organisation, qu'est-ce que c'est comme objet?
Voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a la Légion de l'Archange Michel et ensuite la Garde de Fer. Alors, on vous dira, à ses justes titres, et je l'ai écrit moi-même, que c'est à peu près la même chose. Mais en réalité, c'est très différent. C'est comme l'IRA et le Sinn Féin en Irlande. En fait, vous avez le mouvement, et le mouvement est peut-être secret, il peut être clandestin. C'est la Légion de l'Archange Michel. D'ailleurs, il est interdit à plusieurs reprises et il subsiste. Et vous avez la façade politique. La garde de fer, c'est la façade politique qui se présente aux élections. Et elle s'appelle la garde de fer à partir de 1930. Il est créé en 1930, donc vous voyez, en fait, trois années après la Légion de l'Archange Michel, pour pouvoir représenter la Légion de l'Archange Michel dans les élections, hein, parce qu'il y a une tactique électorale que Codreanu appelle dans ses mémoires aller vers les masses, hein, parce qu'il y a aussi cette volonté de massification. Donc on passe de la secte initiale des fidèles, de quelques fidèles, d'une poignée de fidèles qu'est la Légion de l'Archange Michel, créée donc en juin 27, on passe au mouvement, à la volonté de massification à partir de 1929-1930, c'est-à-dire à partir du moment où la crise socio-économique et qui devient sociopolitique permet en fait de se massifier. Et donc, il crée à ce moment-là la garde de fer, et vous voyez bien qu'avec la garde de fer, vous avez une référence au fer, c'est-à-dire en réalité à la modernité industrielle et urbaine, et au Stahlhelm, c'est-à-dire au casque d'acier allemand.
Mais on entend aussi le glaive.
Oui.
C'est très archéo-futuriste, finalement.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est à la fois l'orage d'acier et en même temps...
C'est ça. Donc, en fait, c'est la tendance militariste, urbaine et moderniste qui va représenter cette légion soi-disant traditionnelle, archaïsante, religieuse, agrarienne, qui va la représenter dans les élections. Et d'ailleurs, les succès électoraux qui sont remportés à partir de 1930, ce sont des succès essentiellement dans les milieux urbains, jeunes, éduqués, parfois ouvriers. Et justement, et là, par contre, je vais me distinguer encore de ma collègue, Codreanu ne rencontre pas beaucoup de succès en Bessarabie,
parce que la Bessarabie, précisément, est beaucoup plus agraire, plus rurale, et est tenue par l'antisémitisme traditionnel de Cousa. La Bessarabie, même si elle est sous le feu du danger des pénétrations communistes et des relais communistes venant de Moscou, mais en réalité, elle ne se donne pas à Codreanu, elle se donne à Cousa. Donc là, ça confirme plutôt ce que je dis moi, c'est-à-dire que le fascisme est certes un anticommunisme, mais c'est plutôt une concurrence auprès des jeunes éduqués ou ouvriers, et ce n'est pas une opposition frontale au communisme. L'opposition frontale au communisme et à ses relais minoritaires éventuellement juifs, c'est plutôt Cousa. Codreanu, d'une certaine façon, chasse sur les mêmes terres que les communistes et leur fait plutôt une concurrence pour leur soutirer leur électorat plus que pour les affronter directement. Celui qu'ils affrontent directement, c'est plutôt Cousa. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a pas beaucoup de succès en Bessarabie, où il pourrait avoir du succès parce qu'effectivement, il y a une pénétration communiste, il y a la frontière avec l'Union soviétique. Mais ce n'est pas là qu'il rencontre les plus grands succès.
Et là, en plus, si vous me permettez juste une petite intervention, la Bessarabie était... une province de l'Empire tsariste depuis 1812.
Oui.
Donc là, il y avait un siècle de présence slave russe.
Absolument.
Oui. Absolument. Donc, alors, la géographie électorale roumaine des années, ces années a l'air en effet passionnante. Vous écrivez, il laboure la campagne. Vous écrivez, la violence s'articulait à la tactique électoraliste liée à la massification. Ce fascisme cherche les masses quand même. C'est quand même des jeunes gens en gants blancs, c'est quand même effectivement des jeunes gens, comme vous dites, un peu déracinés des villes, etc. Mais on voit qu'ils vont essayer de chercher les masses, ils vont essayer d'élaborer un discours ou une esthétique de séduction, type de la violence, etc.
Oui, moderniste.
Et avec un certain succès, puisque je crois qu'on attend des scores électoraux qui sont à 15-16%.
Oui, c'est ça, 15-16%, tard, en décembre 1937.
Et puis,
mais il y a d'autres succès un peu avant.
Et puis, pour avancer, ils n'intègrent pas finalement, le jeu politique roumain, puisque le roi, l'autre partie du personnel politique roumain, fait obstacle et empêche la constitution de coalition parlementaire avec la garde de fer.
Voilà. Et là, d'une certaine façon, un débat serait intéressant avec mon collègue Rhin Chapoutot, qui, lui, essaie de montrer qu'il y a un relais entre la droite conservatrice, la droite réactionnaire, d'un côté, et les nazis de l'autre. Cette collusion existe aussi en Roumanie jusqu'à peu près en 1936-37. Jusqu'en 36-37, le roi, qui est un roi autoritaire, moderniste, et qui voudrait précisément récupérer la dynamique fasciste, eh bien, le roi essaye d'amadouer, d'une certaine façon, Codreanu et la garde de fer. Et il y a une rupture très claire et très clairement défini, qui est février 1937. En février 1937, deux des chefs fascistes, Ion Moza précisément, donc le beau-frère de Codreanu, et Vassile Marine, qui est un autre intellectuel du mouvement légionnaire, se font tuer dans la guerre d'Espagne. Ils participaient du côté franquiste. Donc ils rentrent, ils reviennent par l'Allemagne, où ils reçoivent les honneurs du régime nazi. Ils arrivent en train, leur corps arrive en train, et il y a une inhumation dans un grand style, avec une grande manifestation légionnaire. Et le roi et les intellectuels traditionnels de droite se rendent compte à ce moment-là que la garde de fer est devenue vraiment importante, vu les masses qu'elle mobilise lors de cette grande manifestation de l'enterrement de ces deux chefs fascistes. Et c'est à ce moment-là que le roi fait rencontre pour la seule et unique fois Codreanu en février 37 et lui fait la proposition, pratiquement, de l'embrigader, de l'intégrer au régime. Et Codreanu lui dit non. Il reste dans l'opposition. Il reste anti-système. Donc, en fait, il veut le pouvoir total en rupture avec les traditionalistes. Et donc, bon, on peut donc discuter avec...
Mais en 37, c'est ça.
Février 37. Donc on peut discuter avec mes collègues qui essaient de montrer qu'il y a une continuité entre la droite traditionnelle et les fascistes pour montrer qu'en fait, en Roumanie, elles ne fonctionnent pas. Et dans tous ces petits pays, ou plutôt petits pays avec grand fascisme, en Hongrie, c'est pareil, elles ne fonctionnent pas. Les oustachistes ne prennent le pouvoir qu'au moment de l'occupation italienne et allemande, mais surtout italienne, après 1940. Et donc, on peut discuter de cette collusion entre la droite et le fascisme, qui ne se vérifie pas en Roumanie, elle se vérifie juste pendant quelques mois dans le régime du maréchal Antonescu. Mais après, alors, la mise à l'écart du roi, et là on entre dans la période de la guerre.
Avant d'avenir à la guerre, il faut que vous évoquiez cette fin dramatique de Codreanu, puisqu'il finit effectivement.
Oui. Précisément par se faire assassiner. Et il se fait assassiner sur ordre du roi.
Il y a la garde de fer, les types sont en cabane, parce qu'il y a une répression qui s'abat par peur d'une prise du pouvoir.
Oui, oui.
Lui aussi est en cabane, finalement.
Oui, il est emprisonné.
Il est emprisonné. Et il se fait assassiner dans des circonstances un peu
obscures. Se fait assassiner après une rencontre entre le roi Karol et Hitler. Bon, Hitler n'est pas très content parce que tout apparaît comme si Hitler avait approuvé l'assassinat de Codreanu et de 13 autres chefs fascistes, ce qui n'est pas le cas. Donc il n'est pas très content, mais le roi Karol le fait à un moment où il s'est rapproché un peu de Hitler, où il a rééquilibré la diplomatie roumaine entre la France et l'Allemagne nazie, et donc où il se croit suffisamment couvert du côté des puissances fascistes, du puissance de droite, fascisme et nazisme, Italie et Allemagne, il se croit suffisamment fort, suffisamment couvert pour pouvoir réprimer son propre fascisme à l'intérieur. Donc il se fait assassiner, Codreanu, avec 12 autres chefs, ou 13 autres chefs, je ne me souviens plus, 12 autres chefs, donc lui c'est le 13e, hein. Donc c'est assez biblique, hein, puisque cela fait un tout petit peu, les apôtres et Jésus, hein. Donc les légionnaires ont par la suite joué sur ce rapprochement, cette équivalence. Il se fait assassiner en novembre 1938, et donc le mouvement est durement réprimé en 38, en 39 surtout. Il est complètement décapité, il y a des centaines de morts parce qu'ils assassinent une fois de plus un premier ministre, Armand Călinescu, au tout début de la guerre, en septembre 39, et donc le roi Karol décapite le mouvement. Il y a à peu près 200-300 chefs assassinés, donc pratiquement tous les cadres régionaux de la garde de fer sont assassinés.
Musique.
Quintec historic ne aduce aminte que frati in vecior fi frati. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecători. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul ne cheamă, Ardealul, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre marea unire, hotarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de fi să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de fi să ne îngropăm de vin. Nu să bifăcură unirea ci inimi, spre alba cu toții mergeam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Toți oamenii
se-mi dau între gira voința întregului neam. Cu toții eram regimente române, Moldova, Muntenia, Ardal. Firească unire cu patria mumă n-a fost cel mai drept ideal. Firească unire cu patria mumă n-a fost cel mai drept ideal. Aceasta-i povestea Ardealului nostru și-a neamului nostru viteaz. Istoria-ntreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Istoria-ntreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi.
Poezie, bravo!
Peut-être que le sida peut nous raconter
l'histoire
de la chanson, cette chanson.
Poésie.
Si tu pars de ton long chemin de sort, je ne t'arrêterai pas. Si tu pars, laisse-moi l'épaule sur laquelle j'ai reposé ma volupté. Cette épaule, garde-la rien que pour moi. À une autre femme que tu aimeras sans doute un jour, ne la donne pas. Seule elle a gardé, inchangée, la lumière de l'amour de cet automne, si éblouissant, si innocent, saison d'amour, saison frisson, saison ardeur. Toujours moi.
Grand merci. Bravo.
Merci.
Nous sommes en ligne avec Mario Varro, je crois.
Oui, bonsoir.
Cher Mario, nous ne traiterons aujourd'hui que de la Roumanie avant la guerre. Nous avons beaucoup parlé de la garde de fer, Codreanu, le chaos politique roumain. Étonnamment, c'est un mouvement politique qui a eu une postérité littéraire dont vous voulez nous parler ce soir.
Oui, en tout cas, c'est assez connu hein, de certains lecteurs, mais il y a des écrivains roumains importants. Hein. On peut penser à Sioran, évidemment, à Mircea Eliade, mais aussi un peu à Ionesco, même si Ionesco, c'est un cas complètement à part quand même des deux premiers, qui sont liés, en tout cas, qui ont vécu, évidemment, cette période. Alors, ils l'ont vécu d'une manière très différente, et ça a été dit hein, il y a quelques minutes dans l'émission. Si l'on parle d'abord de Mircea Eliade, il y a quelque chose de très documenté chez lui, hein, et le plus lourd de conséquences, on pourrait dire, hein, pour son œuvre académique. On a des articles dans la revue Vremea, le quotidien Kubantul, hein, qui ont contribué à donner une assise philosophique hein, au mouvement légionnaire, hein, à la garde de fer hein, de Codreanu. On le voit dans ses textes, ennemis des Lumières, des francs-maçons, des régimes démocratiques, d'importation étrangère. Hein, ce sont ces mots du bolchevisme, hein, vous l'avez très justement rappelé, et aussi un antisémitisme, bien sûr, qui est présent dans les textes. Il y a d'ailleurs des textes assez explicites hein, sur le sujet. On peut penser à un texte de décembre 37 qui s'appelle « Pourquoi je crois en la victoire du mouvement légionnaire hein. ». Eliade d'ailleurs y écrit, c'est assez célèbre, hein, « Je crois dans le destin du peuple roumain, c'est pourquoi je crois en la victoire du mouvement légionnaire hein. ». Un peuple qui a démontré d'immenses pouvoirs de création à tous les niveaux de la réalité ne peut pas faire naufrage à la périphérie de l'histoire dans une démocratie balkanisée, dans une catastrophe civile. Hein. Et donc il conclut, et là on a une citation connue aussi du jeune, premier Eliade, « Je crois dans le destin de notre peuple, je crois dans la révolution chrétienne de l'homme nouveau, je crois en la liberté ». Donc il y a cette espèce de croyance dans la régénération intellectuelle et la régénération mystique aussi. C'est d'ailleurs la différence que l'on peut voir, ou en tout cas que Mircea Eliade a pu voir dans les premières années de sa carrière intellectuelle, par rapport dans cette garde de fer de Codreanu, par rapport aux autres fascismes, hein, au pluriel. Hein. Je le cite, le monde entier se trouve aujourd'hui sur le signe de la révolution. Mais tandis que d'autres peuples vivent cette révolution au nom de la lutte des classes, du primat de l'économie, ils parlent du communisme ou de l'État, là ils parlent du fascisme, ou de la race, ils parlent évidemment là de l'hitlérisme, le mouvement légionnaire est né sous le signe de l'archange Michel et vaincra par la grâce divine. Donc on est, selon lui, dans quelque chose de plus mystique, de plus religieux. il y a, je passe rapidement, mais il y a une participation, en tout cas diplomatique, hein, d'Eliade, on le sait, comme attaché culturel durant la guerre. Une rencontre aussi avec Julius Evola. Pour aller vite, après-guerre, certains ont pu voir dans ses ouvrages, notamment d'histoire des religions, une sorte de sous-texte, d'hypotexte qui serait inspiré par les textes, en tout cas par cette doctrine de la garde de fer. Alors, je ne vais pas m'apesantir parce que ça serait trop long, mais il faut savoir qu'il y a eu des études et il y a eu des polémiques d'ailleurs dans les années 90 à ce sujet. Et certains, on peut penser à Norman Manea par exemple, qui ont, dans un essai qui s'appelle Felix Culpa, apporté des preuves assez, assez importantes. Mais là, évidemment, c'est un débat que nous ne pouvons pas conclure ce soir. Si on pense à Émile Cioran, qui est un autre, évidemment auteur important, on peut rappeler une sorte de fascination, je ne dirais pas d'adhésion, mais de fascination pour le national-socialisme au début des années 30. Et puis, pour aller vite, un texte important de novembre 40, hein, qui s'intitule Le profil intérieur du capitaine, qui était un texte en fait radiodiffusé, hein, dans lequel Cioran rappelait en fait je le cite, hein, avant Corneliu Codreanu, la Roumanie était un Sahara peuplé. Hein, ceux qui se trouvaient entre ciel et terre n'avaient aucun contenu sinon l'attente. Quelqu'un devait venir. Donc, on a des textes, hein, de Cioran assez, assez favorables, c'est le moins qu'on puisse dire, à Codreanu. Et il disait que Codreanu avait donné aux Roumains un but. Hein. C'est assez raccord avec son texte de 36 qui s'appelait « La transfiguration de la Roumanie », hein, où il écrivait que la Roumanie devait cesser d'être un peuple d'esclaves pour devenir un peuple de fanatique, le mot est fort, hein, même si, évidemment, dans le vocabulaire et le lexique de Cioran, il y a une signification particulière. Donc, Codreanu est la figure qui réalise dans l'ordre politique, quelque part, ce que Cioran, en tout cas le jeune Cioran, hein, théorisait dans l'ordre philosophique, puisque, évidemment, à la fin de sa vie, il a fait une sorte de mea culpa, en tout cas, il est revenu là-dessus, notamment dans les années 70, hein, j'ai su alors ce que c'est que d'être emporté par la vague sans la moindre trace de conviction. Hein, il évoque même la pire folie de sa jeunesse. Si je suis guéri d'une maladie, c'est bien celle-là. Évidemment, la jeunesse, hein, qui est souvent enclin à toutes les formes d'absolutisme, c'est assez logique. Le parcours de Ionesco est très différent, évidemment. On ne va pas le mêler à Cioran et à Eliade dans son compagnonnage avec Codreanu. Alors, les trois se sont connus à Bucarest, hein, à la fin des années 20. Ils ont étudié à peu près ensemble. Ils se connaissaient, en tout cas. Alors, Ionesco a certes eu des postes diplomatiques pendant la guerre pour la Roumanie, mais c'était plus d'une manière contrainte. Hein. Il n'y avait pas d'adhésion. Et on ne va pas faire le procès à Ionesco, étant donné que Rhinocéros, on le sait, l'une de ses plus célèbres pièces, est en grande partie une satire, hein, de ce fascisme montant. Voilà une sorte de postérité un peu cryptique, mais qui peut nous faire réfléchir évidemment sur le lien entre l'écriture et l'histoire, et qui a donné lieu en Roumanie, mais aussi en France, puisque ces auteurs étaient très connus en France, qui a donné lieu à de grands débats, notamment dans les années 1990.
Qu'est-ce que c'est que le journal de Mikhaïl Sebastian ?
Le journal de Mikhaïl Sebastian, alors c'est quelque chose d'important, c'est un journal important qui est un témoignage, qui a attendez, je retrouve mes notes, excusez-moi, pour être un peu précis. Sebastian, c'est un étudiant qui connaissait Cioran et Eliade, mais qui était d'origine juive, hein, et qui justement a mené un discours critique, hein, sur cette période, notamment notamment, voilà, dans sa préface, hein, Ionescu, pardon, excusez-moi, voilà, c'est un témoignage, voilà, poignant, puisque Sébastien, voilà, il était ami d'Eliade de Sioran, hein, et dans ce journal, c'est un journal, pardon, excusez-moi, qui a été écrit entre 1935 et 1944, et qui est justement un contrepoint, hein, documentaire, hein, par rapport à cette période, puisque Mihai Sebastian est un juif roumain qui est cultivé, qui était ami, hein, en tout cas proche de certains intellectuels légionarisants, on pourrait dire, hein, mais qui offre une perspective critique unique et un témoignage. On peut noter, par exemple, c'est une citation importante, je ne vais pas en faire plusieurs, mais le 20 janvier 38, il écrit « Mircea Eliade était hier chez moi. Nous avons parlé longtemps, il est de plus en plus légionnaire. Il trouve que la garde de fer représente quelque chose d'authentiquement roumain, une révolution spirituelle. Je l'écoutais et je me demandais, est-ce que cet homme réalise ce que cela signifie pour moi ?» Donc on voit là un hiatus, hein, entre l'enthousiasme légionnaire des intellectuels et sa signification concrète pour lui, pour Sébastien.
Merci Mario Varro. Il ne nous reste qu'une minute, nous avons pu balayer la Roumanie de l'entre-deux-guerres. Traian Sandu, j'espère que vous reviendrez pour évoquer rapidement ce que fut la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale et également l'héritage terrible de Ceaușescu.
Je peux.
Absolument, nous serons ravis de vous recevoir également, nous serons ravis de vous recevoir, cher poète. Et j'espère, avec un accompagnement musical, il y a effectivement, pour les 30 secondes qui nous restent, cette postérité assez étonnante d'auteurs roumains francophones autour de la figure de Codoleanu, autour de la figure ténébreuse, terrible, tragique de Codoleanu, qui, et après tout, le débat et la discussion restent ouvertes et pourraient être reprises à bâton rompu le mois prochain, semble continuer d'hanter l'inconscient collectif roumain, entre autres choses. Merci, merci chers auditeurs, merci Florence Rezo,
merci
Marinella, merci Traian Sandu,
merci beaucoup, merci Luciana. Merci à vous, chaleureux.
Chers auditeurs, à dans un mois, et d'ici là, que Dieu vous garde.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Littératures dirigé par Hector Burnouf, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 14 mai 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.